franceinter.fr.
Voilà, vous l'entendez, cette horloge. On va évoquer l'horloge biologique dans un instant pour traiter les maladies inflammatoires. Une nouvelle piste de recherche à la une de la science. Certaines maladies comme le diabète, l'artérosclérose ou l'hépatite fulminante sont sous influence directe de notre cycle circadien, l'horloge biologique interne de notre organisme. Une équipe de Lille démontre aujourd'hui sur la souris qu'en intervenant directement sur cette horloge, il est possible d'améliorer les symptômes et peut-être de sauver des vies. C'est un pas vers une toute nouvelle médecine et on en discute avec notre invité. Axel Villard.
Oui Mathieu, nous sommes en duplex depuis les locaux de France Bleu à Lille avec Hélène Duez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste à l'INSERM, chargé de recherche dans l'unité récepteur nucléaire maladies cardiovasculaires et diabète. Cette découverte, tout d'abord, que l'horloge biologique influence la virulence ou l'apparition de maladies, elle date de quand ?
Alors en fait, nous, on a commencé à travailler sur le sujet il y a 2-3 ans, mais le concept d'immunologie ou d'immunité circadienne, il est né il y a 5-6 ans, en fait. Au moment où, en fait, on a commencé à comprendre que le système immunitaire n'était pas ne répondait pas toujours de la même façon en fonction de l'heure de la journée.
Comment on définit l'horloge biologique, si on devait la présenter rapidement ?
Alors l'horloge biologique, c'est un ensemble de petits composants dans la cellule. Ça se trouve dans toutes nos cellules et puis ça c'est exprimé à certains moments de la journée ou pas à d'autres. Ça fait comme des petites vagues qui se succèdent et ça va faire en sorte que toutes nos cellules, les protéines, les gènes, tous les phénomènes qui sont dans nos cellules en fait vont avoir ces vagues qui vont se former et revenir toutes les 24 heures.
Vous avez travaillé ici sur une forme d'hépatite en particulier qui est influencée par l'horloge biologique, c'est l'hépatite fulminante. C'est quoi cette maladie ?
Alors c'est une maladie qui est très grave, qui est très aiguë. C'est une destruction massive du foie avec une inflammation, avec des hémorragies. En fait, ça survient lors d'intoxication, par exemple au paracétamol ou ingestion de certaines toxines de champignons, par exemple. Ça peut faire suite aussi à certaines hépatites virales, par exemple. Donc ça touche un certain nombre de personnes chaque année en France et finalement, si c'est pas pris à très très tôt dans les premières heures, eh bien on a très peu d'options thérapeutiques, si ce n'est la transplantation de foie.
Et comment vous vous êtes rendu compte que l'horloge influençait sur cette maladie ou sur sa virulence ?
En fait, on a commencé à travailler tout d'abord sur des macrophages, hein, ces petites cellules qui servent à la défense de notre corps. Et on s'est intéressé à un petit système de protéines au sein de ces macrophages. Et on a montré qu'il était sous contrôle de l'horloge. Et on a essayé de comprendre que faisait ce petit système moléculaire en s'intéressant à différentes maladies. Et en travaillant en collaboration, en discutant avec des hépatologues, on a commencé à travailler sur l'hépatite fulminante. D'une part parce que ce petit phénomène existe, ce petit composé cellulaire que l'on cible existe dans l'hépatite, et puis d'autre part parce que, encore une fois, il y a peu d'options dans le traitement de l'hépatite fulminante.
Donc Hélène Duez, cette maladie est devenue une maladie modèle en sorte pour vous, pour étudier justement le lien avec l'horloge biologique ?
C'est ça, c'est devenu une maladie modèle. Alors il y en a d'autres, hein, comme on l'a dit en introduction, il y a l'athérosclérose, il y a le diabète, il y a d'autres pathologies en fait qui sont dues à la suractivation de ce complexe cellulaire que nous sommes capables aujourd'hui maintenant de cibler pour le moduler, pour l'activer, pour le désactiver à certains moments de la journée ou à d'autres moments de la journée.
Et l'étude que vous publiez aujourd'hui, c'est un travail sur la souris. Vous avez réussi à les sauver, en quelque sorte, de l'hépatite fulminante en modifiant l'horloge biologique, on peut le dire comme ça ?
Oui, c'est ça. En fait, dans l'horloge biologique, il y a plusieurs protéines et il y en a une qui est un récepteur. Donc, on peut moduler son activité, c'est-à-dire qu'on met des petites molécules synthétiques qu'on injecte à la souris. On est capable de moduler cette protéine et de cette manière, on va moduler l'horloge. On va la ralentir ou au contraire, on va l'accélérer, on va la rendre plus forte. Et en faisant ça, en fait, on va jouer sur notre système immunitaire. Alors, si vous pouvez imaginer que votre système immunitaire, il n'est pas constant dans la journée, en fait, il est préparé pour anticiper la phase où on est actif, c'est-à-dire celle où en fait on est plus susceptible de rencontrer un danger, une blessure, un virus, etc. Et donc on peut modifier cette balance entre un état très activé pendant la phase de vie et puis un état plus dormant pendant la nuit pour nous. Et donc de cette manière, on va pouvoir influencer le rythme de réponse de notre système immunitaire.
Mais si tout ce système immunitaire est influencé par l'horloge biologique, est-ce qu'en intervenant sur elle pour régler un problème, on risque pas d'en déclencher beaucoup d'autres ?
Ben oui, c'est un des risques. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de travail à réaliser. Alors on utilise des modèles de souris, d'autres travaillent sur des mouches, par exemple. En fait, on essaye de décortiquer dans chaque organe et dans chaque petit système ce que fait l'horloge et comment on peut la moduler. Alors après, évidemment, à nous de faire attention en termes de molécules qu'on injecte. À quel moment de la journée on va l'injecter ? Est-ce qu'on va l'injecter de manière locale ? Est-ce qu'on va l'injecter de manière générale ? En fait, derrière, on a, une fois qu'on aura mieux compris les mécanismes, on pourra mieux adapter l'administration de ces molécules.
Est-ce que d'une autre façon, en dormant différemment, en changeant notre rythme circadien, on pourrait améliorer la santé de certaines personnes qui souffrent de maladies influencées par l'horloge biologique ?
Ben oui, tout à fait. En fait, bon, évidemment, on va pas. Il y a une amplitude à ça. Hein. On peut pas traiter de pathologies très très graves et sévères. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, le fait de bien dormir et le fait de mettre en phase notre horloge avec notre environnement, finalement, permettrait de réduire la survenue de pathologies assez importantes. Hein. On a par exemple dans le domaine métabolique, par exemple, on sait que les travailleurs postés sont plus à risque de développer un diabète ou une obésité. On sait qu'ils développent plus facilement un cancer. Et donc, en fait, on sait que l'horloge est vraiment importante dans la mise en place de ces petits défauts qui, à terme, vont conduire à une pathologie très sévère. Et donc, c'est vraiment en amont qu'on peut jouer en faisant attention à bien conserver nos rythmes de vie.
Voilà, Hélène Duez, vous venez de faire une transition parfaite pour le dossier qui va suivre, puisqu'avec nos invités, évidemment, on va parler aussi de l'importance du sommeil, hein, professeur Carré. Évidemment,
hein. Tout à fait. Le sommeil fait partie de la santé. On le sait maintenant. Il y a l'obésité développée par... sur l'horloge biologique, par exemple, on sait que les sportifs cherchent toujours les moments où ils sont le plus performants, l'entraînement va être le plus efficace sur eux, donc il y a sûrement un lien avec, et la sédentarité perturbant un peu tout l'ensemble du fonctionnement, je vois pas pourquoi elle pourrait pas perturber aussi l'horloge biologique ou certaines parties de l'horloge.
Merci beaucoup en tout cas Hélène Duez pour votre intervention. Merci. Merci au studio de France Bleu Nord pour ce duplex, et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, boire la tasse ne serait pas si inoffensif que ça. Figurez-vous que des chercheurs ont analysé la matière fécale de 300 personnes, dont 143 surfeurs réguliers, pour déceler la présence de la bactérie Escherichia coli, résistante aux antibiotiques. 9% des surfeurs en contenaient dans l'estomac, contre 3% pour les autres. Et chose inquiétante, l'étude publiée dans la revue Environnement International indique que ces bactéries avalées en mer possèdent en plus des gènes mobiles capables de transmettre leurs facultés de résistance. Le problème est loin de concerner uniquement les surfeurs. Ces micro-organismes débarquent sur les environnements côtiers via le système de traitement et de rejet des eaux usées et menacent donc l'ensemble des usagers de la mer. Le sirop d'érable également menacé par le réchauffement climatique, c'est ce qu'indique une étude publiée dans la revue Ecology. Des chercheurs ont observé la croissance d'érables à sucre pendant 20 ans et analysé les sols de 4 régions du Michigan. À l'aide de 2 modèles, ils ont étudié 2 scénarios avec une diminution des émissions de dioxyde de carbone dans les prochaines années. Une température diminuera sensiblement et la croissance des arbres restera faiblement impactée. Ou au contraire, si les rejets de dioxyde se poursuivent, eh bien les précipitations en été baisseront de 40% à cause de l'augmentation des températures. Et les érables à sucre pourraient disparaître dans ce cas de figure. Et puis enfin, la sociabilité qui nuit aux marmottes. Des chercheurs californiens ont constaté que les marmottes les moins sociables pouvaient vivre en moyenne 2 ans de plus que les autres. Et pour cela, ils ont étudié 66 femelles adultes d'une espèce réputée peu sociable. Selon eux, celles qui se côtoient le plus sont exposées davantage aux transmissions de maladies via les parasites ou à la compétition quand la nourriture se fait rare. Ils avaient déjà observé d'ailleurs dans une autre étude que les femelles plus solitaires avaient également davantage de descendance. Contrairement donc à d'autres espèces comme les primates, chez qui la vie en groupe confère des avantages, la marmotte à ventre jaune, elle, a évolué pour vivre seule, semble-t-il.